Ce jour dédié pour la réussite de Steve Fradji Ben Abraham. Cette semaine, Katz, le chef du renseignement israélien, a dit « Nous sommes déjà en guerre ouverte avec l'Iran ». Soleimani, le commandant des forces spéciales iraniennes en Syrie, appelé Al-Quds, a annoncé « Notre armée est prête pour aller éradiquer l'État d'Israël ». Ce n'est pas des paroles en l'air. Les Iraniens ont environ 100 000 soldats en Syrie. Une partie iranienne vraiment, beaucoup des milices pro-iraniennes, du Hezbollah, des chiites d'Irak, etc. Il y a des chances qu'il n'y aura pas la guerre, de fortes chances qu'il y ait la guerre, et d'après Katz, on est déjà en guerre. Bon, si ça reste comme ça, une guerre comme ça, ça va, c'est sympa. On les bombarde, et puis on intercepte leurs missiles, et puis bon, ça va, la vie continue. Le Talmud dit un peu différemment. Le Talmud annonce il y a 1500 ans, c'est dans le traité Sanhedrin, page 98 A et B, bas de la page A, haut de la page B, avec Rachid Abba qui explique que dans les guerres de Gog Magog, les guerres de fin de temps, les Perses vont conquérir l'Irak, Babylone pour être précis, d'accord ? L'Iran va conquérir l'Irak, en termes thoraïques de l'époque, c'est la Perse à conquérir Babylone. Babylone, ça inclut aussi la Syrie. Et le Talmud dit, toute la Syrie, l'Irak, seront remplis des armées iraniennes. Et de là-bas, ils viennent et conquissent la terre d'Israël, Dieu nous en préserve. Je ne sais pas comment aura lieu Gog Magog, personne ne sait vraiment. Il est écrit qu'il doit venir à Jérusalem et mourir là-bas. C'est le tikkun qu'ils doivent faire. Leur tikkun, c'est mourir ici à Jérusalem. En tout cas, une chose est stupéfiante. Ça fait depuis 30-40 ans que je connais cette Gemara. Et moi, je me suis dit, comment les Perses vont venir en Israël? C'est 2000 km d'ici. Et entre nous, il y a deux États super puissants. L'Irak de Saddam Hussein, la Syrie de Bachar el-Assad et avant c'était son père Hafez el-Assad. D'accord, c'était des pays super puissants. Comment l'Iran peut venir? À l'époque, entre 80 et 87, il y avait une guerre entre l'Irak et l'Iran. Ils sont restés à peu près à la même position pendant 8 ans de guerre, d'accord ? 7 ans, 8 ans de guerre, des millions de morts, ils n'ont pas bougé. D'accord ? Alors comment l'Iran pourrait venir ici ? Mais Hachem est le maître du monde. Il a fait abracadabra, l'Irak, ping, éliminé. Les deux Bush, père et fils, viennent et délogent Saddam Hussein, il est pendu. Et l'Irak est un pays à majorité d'habitants chiites. Saddam Hussein, il était sunnite. Hafez al-Assad, il est alaoui. C'est encore une troisième façon d'être musulman. D'accord ? Donc rapidement, l'Iran, qui est chiite, a commencé à influencer la population irakienne. Il y avait encore la Syrie. Bon, on était témoin les dernières années de cette guerre civile absolument démentielle, anormal, d'accord, comme un pays comme ça, qui était un pays prospère, un pays puissant, c'est plus rien, terminé, comme il a dit dernièrement Trump, du sable et des morts, d'accord. Ces deux pays énormes qui faisaient écran quelque part entre l'Iran et nous, éliminés. Moi, je dis, déjà quand ils sont venus contre Saddam Hussein, j'ai dit, oh là là, ils vont pas rester, les Américains vont pas rester en Irak. Donc, il y a déjà une entrée de la Perse. Lorsqu'on a vu maintenant la Syrie est éliminée, les Perses vont venir. Ils sont venus, ils sont maintenant à la frontière israélienne. Il y a un an, c'était beaucoup plus light que maintenant. Maintenant, c'est clair. Ils sont, je dis, comme je vous dis auparavant, 100 000 milices et soldats iraniens ou pro-iraniens. 100 000, c'est à peu près de Sahel, d'accord ? C'est énorme. Et c'est une petite partie. Ils sont beaucoup, 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 beaucoup. Donc, c'est stupéfiant de voir comment les paroles des sages d'Israël se réalisent sous nos yeux. Ça fait partie du tout le processus que nous avons aujourd'hui d'aller vers la Géoula, il faut voir, il faut lire, c'est stupéfiant aussi, Yéhézkel 36, vous verrez en terre d'Israël, vous assécherez les marécages, vous irriguerez le désert, la terre va donner ses fruits, vous rebâtirez les villes qui étaient détruites d'antan, vous ferez de tchouva, je circoncerai votre corps, vous ferez de tchouva, j'enverrai sur vous des eaux pures et vous revenez vers ma Torah. On est en train de vivre tout ce scénario extraordinaire qui amène à la Géoula, à la venue du Messie, Bézat Hachem, très très prochainement. Le Tosfot, donc ce sont les rabbins médiévaux français sur traité Avodah Zara, disent qu'à la fin des temps, la Perse va avoir une guerre contre Rome. Rome, ce n'est pas Rome, l'Italie actuelle, d'accord ? Rome, c'est le dirigeant du monde occidental. On peut dire aujourd'hui, c'est l'Amérique, qui a encore beaucoup d'empreintes romaines, d'accord ? Le Sénat américain, les sénateurs, d'accord ? L'aigle romaine, beaucoup de choses qui viennent, qui sont empruntées directement aux empires romains d'antan. Donc il y aura une guerre entre Rome et la Perse. La vérité, cette Guémara est écrite dans Yoma, et là-bas, il y a deux avis. Un dit que c'est Rome qui va gagner, l'autre dit que c'est la Perse qui va gagner. En tout cas, Tosol prend l'avis que c'est Rome qui va gagner et dit que la Perse va perdre cette guerre. Donc nous devrons vivre normalement bientôt un conflit avec, je pense, nous, la Perse, l'Amérique, la Russie, je ne sais pas ce qui va se passer avec elle exactement, mais en tout cas, c'est extrêmement, extrêmement possible et actuel. Bernard-Henri Lévy, il y a presque un an, fait une émission de télévision en France et dévoile une chose assez intéressante. C'est qui l'Iran ? Qui sont l'Iran ? C'est qui la Perse ? D'accord ?
Le 21 mars 1935, la Perse décide de changer de nom et de s'appeler l'Iran sur ordre de l'Allemagne. Et pourquoi ? Parce que Iran, ça veut dire en persan, en farsi, ça veut dire le pays des Aryens.
Alors il dit qu'en en fait, en 1935, les Perses envoient une délégation à Berlin rencontrer Adolf Hitler. Et ils discutent comme ça, et ils ont remarqué qu'ils provenaient de la même ascendance aryenne. C'est pour ça qu'ils sont revenus, quand ils sont revenus en Perse, ils ont changé le nom du pays de Perse à Iran. Parce que Iran, c'est la même source racine que aryen. C'est super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, la Perse, c'est Amalek. Amalek, c'est donc le substrat du mal qui est la haine contre le peuple d'Israël terrible. C'est-à-dire que tant que le nom, tant que Amalek existe, le nom de Dieu n'est pas complet et son trône n'est pas complet. Son dévoilement sur terre ne peut pas être complet. Et là, c'est marqué dans la Torah que Dieu a juré guerre contre Amalek. C'est le premier des peuples. C'est Israël et Amalek sont les deux premiers peuples. Réchit, Goïm, Amalek. Et c'est marqué aussi que le premier des peuples, c'est Amalek. Et c'est marqué aussi que pour Réchit, pour Dieu a créé le monde, Réchit, c'est aussi le peuple d'Israël. Les deux sont appelés Réchit, c'est-à-dire premier. Et c'est marqué à la fin du verset, Réchit, Goïm, Amalek, premier des peuples, Amalek, Vahrido, Ade, Oved. Et sa fin est disparition. Ça, c'est la fin des temps. Quand Machiav revient, Amalek disparaît, et c'est la fin, il n'y a plus de mal dans le monde, Bezrat Hashem. À mon avis, c'est Amalek. Il y a plusieurs raisons qui m'indiquent cela. D'abord, l'avant-dernier, on va dire, après Hitler, d'accord ? Avant Hitler, le dernier grand Amalécite qui a voulu faire tellement de mal au peuple d'Israël, c'était Haman. Haman à Agagi, descendant de Agag. Agag était le roi de Amalek. Il habitait où ? En Perse. Amalek, à la base, c'est occidental. C'est descendant de Esav, c'est le petit-fils de Esav. Mais il y en a partout. Et à l'époque de Purim, il était, ce grand Amalekite, il était en Perse. Maintenant, on a... Où est sa descendance ? Ben, il a eu 10 enfants qui ont été pendus. Mais le traité de Megillah, la Gemara, il dit qu'il avait 258 enfants. Or, quand on l'avait dit, il reste combien ? 248. C'était il y a 2500 ans. Ça fait des petits-enfants. Puis s'ils vont chaque année, ils font 250... Chaque couple fait 258 enfants, ça fait des millions de milliards. Donc, il se peut qu'il y ait une bonne partie du peuple perse aujourd'hui qui est amalécite, d'accord, Souleymane, Khomeini, Rouhani et tout cela, ça peut tout à fait. Tu vois, c'est la première chose. Deuxième chose, leur haine terrible contre nous, c'est anormal. Amalek, d'après nos textes, lorsqu'on sort d'Égypte, on est dirigé par une colonne de feu la nuit, une colonne de nuée le jour, la mer qui s'ouvre, enferme sur les Égyptiens, des miracles, la manne, extraordinaire. Ils viennent de très très loin, pays éloigné, se battent contre nous. On leur a absolument rien fait. On n'a pas pris leur territoire, on ne les a pas menacés, rien. Ils viennent contre nous se battre. Idem la Perse. Les Iraniens ont dit, la mission numéro 1 de la révolution iranienne est l'anéantissement d'Israël. Mission numéro 1. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait ? Je ne suis pas frontalier avec toi, il y a 2000 km entre les deux. Je ne prends pas ton pétrole, ni ton territoire, ni ta religion. Je te menace en rien. Pourquoi cette haine ? Faire 2000 km pour venir se battre contre nous ? Complètement anormal. Tout à fait caractéristique de Amalek. Troisième chose, Amalek, c'est marqué, quand on dit Parashat Zachor avant Pessah, il faut se rappeler de Amalek, on lit à son propos, Achal Karcha Baderech. Il y a trois explications à ce mot Karcha. Une des trois est ce midrash, que le peuple d'Israël ressemblait à l'époque à une baignoire bouillante. Personne n'osait mettre le petit doigt de son pied dedans. Il était bouillanté. Vient un fou, se jette dans la baignoire. Il est bouillanté, au moment où il a refroidi. Les eaux peuvent après rentrer. De même, le peuple d'Israël sort maintenant d'Égypte. Tout le monde est sidéré. C'est Dieu qui dirige le monde et ce ne sont pas Israël, on n'ose rien faire. Viens, Amalek, se bat. Alors, il est ratatiné. Joshua part en guerre et coupe toutes les têtes de tous les grands. Tout ce qui reste aujourd'hui, c'est les petits soldats. Adolf Hitler, Staline, Torquemada, c'est les petits Amalécites. Les grands étaient déjà décapités par Joshua. Mais au moins, Amalek a réussi à casser le mythe. Il s'est fait complètement, presque complètement ratatiné, d'accord, disparu, mais au moins, il a cassé le mythe. Ça, c'est la troisième caractéristique de Amalek. Ils sont prêts à endurer toutes les souffrances, même crever l'essentiel qu'on tue les Juifs aussi. Aujourd'hui, Trump et son secrétaire d'État, qui était l'ancien chef de la CIA, Pompeo a dit « On a fait des sanctions économiques contre l'Iran comme il n'y a jamais eu dans l'histoire. » En 6 mois, leur pièce a dévalué de 500%, c'est-à-dire 500 fois, pas 500%, 500 fois, d'accord, 500 fois moins. Et continue. Tu as tellement à gagner. Tu n'aurais pas dit, arrêtez votre programme de bombes atomiques, je vous aiderai. L'Amérique va t'aider, mais ça va, tu as l'opulence, tu as la richesse, tu as tout ce qu'il faut. Non. Je ferai ma bombe atomique. Pour qui? Pour qui? Pour nous. Contre nous, c'est évident. Il est prêt à crever, à perdre tout, mais son siège, je ne laisserai pas le peuple juif survivre. C'est tout à fait typique de Amalek. J'ai pensé à un truc dernièrement et ça m'a fait tilt. Dieu, quelle langue il parle? Alors, il ne parle pas. Il n'y a pas une langue et une bouche, d'accord, mais pourtant c'est marqué qu'il parle. Alors, ça veut dire que parler signifie en fait, c'est extérioriser notre pensée et notre volonté. Hachem a une volonté, il avait une pensée et il l'a réalisée. Il a de intérieur est venu extérieur, de potentiel est venu réel. Quand on dit que Dieu a dit, ça veut dire qu'il y a eu passage de potentiel à réel. C'est vrai qu'en hébreu, on appelle objet davar. C'est quoi davar? Ça signifie objet, mais aussi parole. Parce que d'après cette façon de comprendre, toute la réalité, ce sont des paroles de Dieu. Ou bien, comment est-ce qu'on dit objet en hébreu? On dit chefetz. Chefetz, c'est quoi? Objet, mais c'est quoi aussi chefetz? Envie, désir. Nous sommes entourés de désirs. Qui nous désire tellement? Hachem l'a désiré qui est ici. Une feuille, une table, un néon, une écharpe, d'accord? Tout ça, ce sont des désirs de Dieu. Donc Dieu va créer le monde avec ce qu'on appelle la parole, ça veut dire avec des désirs réalisés, des volontés réalisées. Mais ces volontés vont réaliser la réalité que nous avons aujourd'hui grâce à 22 canaux de création. Ces 22 correspondent aux 22 lettres de l'alphabet. Et chacune a un sens. C'est très profond, le sens des lettres. On va parler un tout petit peu. Il y a deux lettres qui m'intéressent. La lettre P, qui signifie quoi? P, la bouche. Première fois, on voit une des façons de connaître le sens des lettres, c'est la première fois qu'on la voit en tête de mot dans la Torah. C'est la première fois qu'on voit le mot P en tête de mot dans la Torah. Non, ça c'est dans Tehilim déjà. Dans les deux, trois premiers versets de la Torah, c'est marqué « Vechosher alpne tehom ». L'obscurité est alpne sur la surface du précipice. Pne signifie panim, signifie visage. Le visage est comme la bouche. Les deux, ce sont des expressions de l'intérieur. D'ailleurs, le mot panim, qui signifie visage, avec si je change le mot panim, je dis pnim, c'est même écrit, même lettre, je change un peu les voyelles, signifie l'intérieur. L'intérieur d'une personne se voit sur son visage. Tu vois pas sur le coup s'il est heureux ou malheureux, inquiet ou pas. D'accord? Une femme voit le visage de son mari, c'est tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. D'accord? Alors qu'il joue la comédie, bien. D'accord? Elle voit encore mieux. Mais elle ne voit pas ça ni sur son dos, ni sur son genou. D'accord? Le visage exprime l'intérieur. À moins que tu sois un très 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 grand menteur et très 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 bon acteur, alors, mais il faut être un grand menteur. D'accord? Donc P signifie lieu du passage de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, Resh. Que c'est la lettre Resh. Tête. Parfois on voit la lettre Resh dans la Torah, c'est où? Dans quel mot? En tête de mot? B, Reshit. Le B, c'est un préfixe. Le premier mot, c'est Reshit. Reshit, c'est le premier. Et ça donne le mot tête, d'accord? Qui a la tête? Ça veut dire que si je mets les deux mots ensemble, P et Resh, P, c'est une sortie comme une bouche vers l'extérieur, de Resh de la tête. La tête, c'est la chose première, il y a une unité. Par exemple, j'ai une idée maintenant, elle est une dans ma tête. Maintenant, je veux l'exprimer, ça peut faire, c'est un passage d'unité à pluralité, je veux dire beaucoup, beaucoup de mots, et d'intériorité à extériorité. Toujours P et Resh, c'est passage d'intérieur à extérieur, et forcément aussi d'unité à pluralité. Vous me suivez? Attention, si on prend ça, c'est catégorique et c'est une des preuves comme quoi la langue sainte, l'hébreu, c'est la langue. C'est la seule langue au monde dans laquelle il y a une adéquation entre le signifiant et le signifié. Signifiant signifie le mot que je vais utiliser pour signifier la chose que je veux signifier. Si maintenant j'appelle ça feuille, est-ce qu'il y a un rapport entre le mot feuille et cet objet-là? Aucun. J'aurais pu l'appeler abracadabra ou cocorico, c'est une convention entre nous. D'accord? L'essentiel, c'est qu'on se comprenne. En hébreu, ce n'est pas comme ça. Le mot exprime l'essence même de la chose. J'en fais maintenant la démonstration radicale au moyen de tous les verbes en hébreu qui commencent par les lettres P, Resh. Vous verrez que c'est tous le même sens. Et ça, c'est unique. Il n'y a pas un autre exemple dans toutes les langues au monde. Ni arabe, ni français, ni chinois, ni rien. P, Resh, Aleph. Péré. Que signifie péré? Non, c'est péri. Ça, c'est péré, sauvage. Très bien. C'est quoi un sauvage? Aussi, si tu veux. C'est quelqu'un qui est sorti hors de l'unité du savoir-vivre normal. D'accord? Tu as l'unité normale de l'humanité, des gens normaux, et il est hors norme, sorti à l'extérieur. Peresh Bess n'existe pas, Guillemets, Peresh Galed, l'Afrid. Pered, l'Afrid, c'est quoi? Pas l'Afrid avec Rek. L'Afrid, séparé. Tu as une chose, une, tu la sépares, deux, trois, quatre, mille. D'accord? De nouveau passage. De l'unité à pluralité. Péré avec un hey. Péré signifie se multiplier au singulier. Très bien. Il y a un, ça fait beaucoup. Pérou au pluriel. Multipliez vous. Première mitzvah qui est écrite dans la Torah. Pas multiplier, fructifiez vous. Fructifiez vous. Péré, fructifiez au singulier. Pérou, fructifiez au pluriel. Paraz. Aré prazot. Bien c'est pourim. Les villes. Toutes les villes, Jérusalem, fête Pourim le 15 du mois de Hadar, toutes les villes qui sont ouvertes, fête le 14. On appelle les villes Prazot. C'est quoi ouverte? C'est qu'il y avait une muraille, mais ils ont débordé hors de la muraille. Ils ont cassé les murailles. Passage d'unité d'intérieur à extérieur, d'unité à pluralité. Perach, fleurir. Parach, il a fleuri. Tu as un bourgeon, il est fermé comme ça. C'est un peu ping, plusieurs pétales, passage d'unité à pluralité, d'intérieur à extérieur. Péri, fruit, idem. Tu as une graine, une. Elle a un potentiel des centaines de milliers de fruits. Tu la plantes et partage du potentiel au réel. Tu n'as pas de centaines, mais la première fois, tu auras 100 fruits, d'accord, 50 fruits. Passage d'unité à pluralité, d'intérieur, parce que le potentiel est toujours intérieur. Tu ne vois pas dans la graine des fruits. Ils ne sont pas au microscope, tu peux les voir dans la graine. Le potentiel qui est invisible devient visible. Passage d'intérieur à extérieur. Parach. Broyé. Qu'est-ce qu'on a après? Param. Param, prendre un habit et le défiler en fil. D'accord? Paras n'existe pas. Paras non plus. Paras, oui, paras. Il a étendu, ou bien pour ça, des tranches. Ou bien tu étends ou tu fais des tranches. Un pain pour roussot l'echem, d'accord? Paras, tifros et l'echem. D'accord? Prendre un pain et en faire des tranches. Pas d'unité à pluralité. Para. Il a. Hein? Para, c'est parce que dans la Torah que la sota, on lui dévoile ses cheveux. Elle avait un foulard, c'était uni, caché ses cheveux, tac, on dévoile, passage d'intérieur à extérieur et d'unité à pluralité, tu as des milliers de cheveux qui apparaissent.
On a gardé en français ça, parce que c'est périphérique.
Para, ça, c'est des copies. Alors j'ai un autre truc qui s'appelle l'hébreu, le français, les français parlent l'hébreu, d'accord? Où j'ai beaucoup, beaucoup de mots français qui viennent de l'hébreu. Tous ceux dans lesquels c'est marqué dans les dictionnaires étymologiques, tu as des sources grecques, tu as des sources celtes, tu as des sources romaines et tu as sources incertaines. Quand c'est incertain, ça vient de l'hébreu. Ils ne savent pas l'hébreu, on met une source incertaine, d'accord. C'est stupéfiant à voir. Il faudrait que je fasse ces cours-là, un de ces jours. Donc je continue, on était à para. Paratz, paratz, c'est casser une unité, mais avec puissance. La lettre tzadik, c'est toujours comme un tzadik, d'accord. C'est tension. Je crois que c'est l'origine du mot en français, effraction. Effraction, c'est quoi les consonnes que tu as dedans? Les consonnes, frx, paratz, exactement les mêmes. Casser une chose, unie. D'accord? Tu casses le cadenas à la maison, tu rentres avec effraction, d'accord?
C'est une percée aussi.
Hein? Percée, aussi. Très bien, très bien, très bien. Percée. Alors c'est intéressant, c'est pas mon lieu, mais je vais en parler. Si tu remplaces maintenant paratz, tu mets deux fois tzadik. P, ouverture, tzadik, puissance. Tzadik, puissance, avec beaucoup de puissance. C'est quoi, patsatz?
Exploser.
C'est extraordinaire comment ça correspond. Et ce n'est pas un mot moderne, les bons modernes, d'accord? C'est écrit dans le projet Jérémie, tu as patsatz, d'accord? C'est marqué, on parle d'explosion. Perek, c'est quoi perek? Un chapitre. Ou bien l'efarek, démonter. Telle chose, tu la démontes en petits morceaux. L'efarer, quand on a les deux lettres qui se répètent, c'est pour accentuer. L'efarer, émietter. Pas que d'unité à pluralité, à super pluralité, tu passes. Les fa resh, expliquer, comme je disais auparavant, tu as une idée, elle est claire, mais maintenant pour l'expliquer, il faut des fois un livre entier l'écrire. Et enfin, c'est fini, les farets avec un taf, il n'y a pas de verbe pareil.
Para avec un lef.
Ça, c'est les noms propres, c'est beaucoup plus profond, ça veut comprendre la raison du pourquoi, du comment. D'accord? Mais ça va avec le veau d'or. Tu pourrais réfléchir à la question.
Ça marche juste avec la lettre P et Rech?
Non, ça marche avec tout. Tout. Mais il faut bien définir quel est le sens des choses et comme ça. Pourquoi je parle maintenant? On parlait de l'Iran, en tout cas, je vous parle maintenant de linguistique. Parce que la Perse, c'est-à-dire en hébreu, paras. P, Rech, sa mère. Même source étymologique. Alors, c'est quoi paras? C'est le seul pays au monde qui s'appelle Paras. Il y a un endroit qui se ressemble un peu, c'est Paris aussi. Il y a sûrement un rapport entre les deux. D'accord. Mais en tout cas, Paras, celui qui casse l'unité. Qui est un? Par excellence, Hachem. Et on dit que tant que Amalek existe, le nom de Dieu n'est pas un et son trône n'est pas un, n'est pas reconstruit. L'auteur, Paras, c'est leur nom même. Alors, je pense que nous sommes extrêmement proches. J'ai dit dans un cours maintenant, j'avais entendu, le Rav Blatner nous a dit ici, il y a quelques jours, m'avait dit qu'il a entendu le Rav Chaim Kanievski, on a tout posé la question, qu'est-ce qu'on fait pour les élections électorales, pour les listes électorales maintenant, bientôt dans quoi, le 4 ou le 7 avril, d'accord, il y a les élections ici. Il a dit, ça sert à rien, Machar, il arrive. Il y a un type américain qui vient et dit, Kodara, voilà, moi maintenant, est-ce que vous me conseillez, je peux devenir israélien jusqu'aux élections, comme ça, ce sera une vote en plus pour le parti pour lequel vous voulez voter. D'accord? Et ça ne sert à rien. Ma chère, bien avant, pas besoin que tu te... Rav Chaim Kanievski. Ah. Maintenant, c'est extrêmement encourageant, mais attention. Le Rav Kanievski a dit, je ne suis pas un prophète, je peux me tromper. Souvent, il a dit des dates, ce n'est pas arrivé. Mais quand même, c'est un grand datora qui est Ruach HaKodesh. Donc, c'est certain qu'il y a ici... un moment extrêmement propice. J'espère que c'est le bon. Il y a d'autres choses qui nous indiquent que peut-être c'est la bonne date. Attention, 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 je peux me tromper, je me suis toujours trompé jusqu'à aujourd'hui, et ouais, j'espère que je ne me trompe pas cette fois. Pourquoi je vous en parle? Pour qu'on se renforce un peu, qu'on comprenne qu'il faut faire tchouva, et qu'ici on voit que ça commence à passer au roussi, ça va très mal, être confiant, parce que Bezrat Hashem, ce coup-là, ça sera le happy end de notre côté. Mais alors, ça a toujours été dans notre côté. Question qu'on il faudra payer auparavant. Ramsar Bachol m'a dit, à mon avis, on a tout payé déjà dans la Shoah. Donc, même si on voit que ça, s'il doit venir ici à Jérusalem, parce qu'entre la frontière du Nord et Jérusalem, il y a quand même du chemin, on risque de trembler, d'avoir peur, de hurler. C'est bien, il faut hurler à Hachem, faire tchouva. Mais alors, Hachem, on espère que tout se passera pour le bien. Nous sommes convaincus que tout ira bien, et surtout, il faut se préparer pour la suite, parce que quand Machia revient, le pire. C'est, regarde mes habits, comme ils sont sales, les habits de Maneshama, d'accord, faire tchouva, être propre pour recevoir Hachem dans la joie, pas avoir honte après toute sa vie, comme moi j'étais crétin, comme je l'ai été. Alors, je me trompe toujours, donc je ne sais pas, mais néanmoins, il y a des chances. Il y a un Tikkun et Zohar, j'en ai parlé aussi dernièrement de cette chose-là, le Zohar, d'accord, c'est trois volumes. Et après, il y a 70 permutations du mot Bereshit qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans un des tikkunim, c'est écrit qu'après qu'on aurait été en exil dans les quatre grandes royautés qui sont, la première, c'est la Babylonie, ensuite la Perse, ensuite la Grèce, ensuite l'Occident, on sera 70 ans dans, en guillemets, pas exil, mais sous l'autorité du Erev Rav. Erev Rav, ça veut dire des juifs, mais non pratiquants. D'accord, d'habitude, contre la Torah. Ce fut le cas. les 70 ans d'Israël ont fini le Hei Iyar l'année passée, donc vers le mois de mai 2018. Donc on est tout là, les 70 ans sont passés. Il y a le Zohar 10, ça sera 70 ou 72. Il y a deux ans de... Maintenant, c'est pas clair aussi, c'est quand que ça commence. Ce n'est pas le 5 Iyar, lorsque le décret d'indépendance de la terre d'Israël, que Israël tout à coup avait la terre d'Israël. C'est faux, il y a une guerre qui a duré presque un an, sanglante. Il y a eu 6 000 morts, chemin morts durant cette guerre. C'est seulement vers cette période-là maintenant, janvier-février, qu'on a commencé à avoir un peu plus de maîtrise de la terre. De toute façon, il faut pas, on ne parle pas maintenant de science exacte, d'accord, qu'on dit 70 ans, mais 70 ans jusqu'à 11 mois et 29 jours. C'est toujours dans les 70 ans. 72, ça doit être encore un ou deux ans. Donc, tout correspond. Quelqu'un m'a dit aussi une chose sympa. Il m'a dit qu'on devait être 430 ans en Égypte. C'est marqué qu'on est sorti, c'était 430 ans. Mais en fait, on n'est resté que 210. Dieu a fait un rabais de combien? 430 moins 200, moins 210, 220. Or, nous sommes exactement 220 ans avant l'an 6000. C'est-à-dire qu'il se peut que le même rabais qu'il y a eu d'exil, et après c'est aussi 220 ans. Maintenant, on est 220 ans et il y a eu 7 mois. D'accord ? Les mois, on ne compte pas dans la Torah. Donc,
on
voilà.
Va avoir 400 ans, non ?
Hein ? Égypte. 430 depuis que Dieu a dit à Abraham que sa descendance sera en exil, 430 ans. 430 depuis la naissance d'Yitzhak. Donc, voilà, messieurs. Moi, je suis très, très chaud. Je ne vous cache pas. Mais c'est normal. Je suis un habitué. Il ne faut surtout pas rentrer en panique. Quand je dis ça, les gens rentrent en panique. Donc, j'ai rien dit. Mais il faut faire tchouva, se renforcer, prier dès maintenant à Hachem que tout se passe pour le mieux, qu'il n'y ait pas de mauvais décret pour Am Israël, et préparer déjà son costume. Le costume physique, on peut gérer un bon costume, d'accord, qu'on mettra dans l'armoire et qu'on mette Charmian, on ne cherche rien dessus pour rendre quitte la venue du Mashiach, bien qu'on peut aussi cherche rien sans le costume. Et surtout nettoyer nos habits de l'âme pour qu'ils soient propres au Mashiach. Quand Mashiach vient, on fait 4 brachot. 1, Cherianou. 2, il y aura seulement au moins 600 000 juifs présents pour recevoir Mashiach. Quand il y a 600 000 juifs, on fait la bracha. Baruch atah Hashem el kol mecha olam. Chacham harazim. Le sage des razim, des secrets, parce qu'il arrive à créer 600 000 personnes qui viennent la même âme, même avec un visage différent. Ensuite, le Mashiach, ce sera un roi d'Israël. Quand on voit un roi d'Israël, on fait une bracha. Hashem baruch atah Hashem el kol mecha olam. Hashem chalak mikvodo. L'Irehav, qui a partagé de sa gloire à ceux qui ont sa crainte. Car l'Israël a la crainte. Pardon, le roi d'Israël a la crainte du Dieu d'Israël. Et enfin, ce sera un grand sage d'Israël. Impossible que ce soit le Mashiach, ce n'est pas un grand sage d'Israël. Quand on voit un grand sage d'Israël, on fait une bracha aussi. Baruch HaTashem Mekom El Ha'olam, Asher Chalak, qui a partagé. Je vais lire d'abord pour que les gens l'apprennent. Asher Chalak Michochmato L'Irehav, qui a partagé de sa sagesse à ceux qui ont sa crainte. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen, qu'on puisse faire ce bracha très bientôt, Bézrat Hashem, avec nos nouveaux costumes.
Amen.